Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 1er août 2016. Au sommaire ce soir...
Insécurité dans le nord du Mali, un officier a été tué chez lui à Tombouctou.
Les policiers burundais de la mission de l'ONU en RCA regagnent leur pays suite à une décision de l'organisation internationale.
La Turquie a admis pour la première fois que la purge post-coup d'État a été... un peu exagéré, a donné lieu à des erreurs.
Présidentielle américaine, Hillary Clinton remonte dans les sondages après la convention démocrate.
Ne manquez pas nos rubriques économie et sport.
Mais d'abord, le journal.
Un officier de l'armée malienne a été abattu la nuit dernière par des individus armés à Tombouctou. L'incident s'est produit dans la résidence même de la victime. Les assaillants qui sont venus à moto ont pris la fuite, comme nous l'explique Abdoulaye Traoré, directeur de Radio Bouctou, partenaire de VOA Afrique.
Hier soir, aux environs de 21h30, donc des coups de feu ont été entendus dans le quartier Mabangou. Directement, il y a eu une alerte. Et là, les gens se sont dirigés voir ce qui s'est passé. Et c'est ainsi qu'il s'est avéré que c'est un capitaine de l'armée malienne, du nom de Hamata, qui a été tué par 4 individus qui étaient venus en moto. Donc, ils l'ont fait appel dehors, juste à la porte, ils l'ont abattu. Et ils ont pris les motos pour fuir. Bon, après ça, la sécurité a bouclé donc les lieux et l'ont emporté à la mort à l'hôpital. Mais jusque-là, on ignore qui a fait ça. Quelles sont les motivations? Bon, pour le moment, on attend les enquêtes.
Abdoulaye Traoré à Tombouctou.
126 membres du contingent burundais de 280 policiers de la mission des Nations Unies en Centrafrique sont rentrés ce matin à Bujumbura. Les autres étaient attendus ce soir. Aucun policier burundais ne fera plus partie de la MINUSCA, telle que l'a décidé le Bureau des Nations Unies. Le point à Bujumbura avec notre correspondant Christophe Kourounziza.
À bord d'un avion de Ethiopian Airlines, 126 policiers burundais de la mission des Nations Unies en République centrafricaine sont arrivés ce lundi à 10h GMT à l'aéroport international de Bujumbura. Le reste du contingent burundais arrive ce lundi soir. À la question de savoir si ces policiers ont été renvoyés pour atteinte sérieuse, le porte-parole de la police, Pierre Ngurikiye, a indiqué que ce sont les organisations de la société civile qui pensent que ces policiers ont été chassés de la MINUSCA. Pour Pierre Ngurikiye, ces organisations ont voulu semer la division au sein des corps de défense et de sécurité du Burundi depuis avril de l'année dernière. Et ce n'est pas demain qu'elles vont réussir à saper cette union, car les corps de l'armée et de la police sont tous unis comme les doigts d'une même main, selon toujours le porte-parole de la police qui était à l'aéroport les accueillir. En juin dernier, le secrétariat des Nations Unies avait déjà informé la mission permanente du Burundi auprès des Nations Unies à New York du rapatriement des unités de police constituées burundaises le jour de leur rotation le 31 juillet dernier, et de ne pas les remplacer. L'ONU étudie également le cas des 840 soldats de la MINUSCA. Notons également que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté vendredi dernier pour l'envoi de 228 policiers onusiens en vue de suivre la situation sécuritaire au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo a été reporté au 10 octobre à la demande de l'accusé et de ses avocats. L'ex-première dame, qui est poursuivie pour crime contre l'humanité, ne s'est pas présentée devant les assises d'Abidjan aujourd'hui. Madame Gbagbo, 67 ans, a fait savoir qu'elle était fatiguée. Le procès avait déjà été suspendu pour 2 semaines en raison de malaise.
Interpol a annoncé aujourd'hui l'arrestation à Port-Harcourt, dans le sud du Nigeria, d'un homme soupçonné d'avoir escroqué en ligne des centaines de victimes dans le monde pour un montant de plus de 60 millions de dollars. Salwa Jafari nous en dit plus sur ce personnage.
Mike, c'est ainsi qu'il se fait appeler, un Nigérian âgé de 40 ans. L'homme a amassé une fortune totalisant plus de 60 millions de dollars en arnaquant des centaines de victimes à travers le monde. La victime la plus crédule lui a même versé plus de 15 millions de dollars. L'arrestation par Interpol du suspect a été menée avec le soutien de l'Agence nigériane de lutte contre la corruption ainsi que la Commission de lutte contre les délits économiques et financiers. Le réseau est tentaculaire. Il s'est infiltré dans des comptes de courrier électronique de petites et moyennes entreprises dans le monde, notamment en Australie, au Canada, en Inde, en Roumanie et même aux États-Unis. Mike n'est pas le seul à mener cette opération. Le réseau démantelé comprenait au moins une quarantaine de membres qui fournissaient des logiciels malveillants et commettaient des fraudes. Le suspect avait aussi des comptes pour blanchir l'argent en Chine, en Europe et aux États-Unis. Il risque des poursuites pour piratage informatique, association de malfaiteurs et obtention d'argent sous des prétextes fallacieux.
Au Nigeria, toujours massacre de masse. Une commission publique d'enquête confirme que l'armée nigérienne a tué plus de 347 membres d'une secte chiite lors d'une manifestation à Kaduna du 12 au 14 décembre dernier. Les affrontements avaient éclaté lors de la visite du général de l'armée Tukur Yusuf Buratai à Zaria, fief du mouvement islamique du Nigeria, un groupe chiite partisan de l'instauration d'un régime à l'iranienne dans l'état de Kaduna.
Soudan du Sud, l'opposant Lam Akol démissionne de ses fonctions de ministre de l'Agriculture et ministre de la Sécurité alimentaire, estimant qu'il n'y a plus d'accord de paix à appliquer à Djouba. La seule possibilité pour s'opposer à ce régime, celui de Salva Kiir, est de s'organiser en dehors de Djouba, a-t-il déclaré depuis la résidence du chef des ex-rebelles, Riek Machar, dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Lam Akol fut, lors de la présidentielle de 2010, le seul adversaire de l'actuel président sud-soudanais.
En Libye, les États-Unis ont mené aujourd'hui des frappes contre le groupe État islamique. Le raid conduit à la demande du gouvernement libyen visait Sirte, bastion des djihadistes. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du porte-parole du Pentagone, Peter Cook. Le gouvernement libyen a indiqué de son côté que de lourdes pertes avaient été infligées aux insurgés. Et c'est dans ce contexte que la compagnie nationale libyenne de pétrole a annoncé qu'elle s'apprêtait à reprendre les exportations de brut à l'arrêt depuis plusieurs mois à cause de divergences politiques et d'attaques djihadistes après un accord pour la réouverture de deux terminaux pétroliers.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie a admis pour la première fois aujourd'hui que la purge post-coup d'État a donné lieu à des erreurs. Malgré tout, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 11 soldats accusés d'avoir fait partie du commando qui a attaqué l'hôtel où se trouvait le président turc Recep Tayyip Erdogan la nuit du putsch manqué. Jacques Aristide.
En cavale depuis un peu plus de deux semaines, les 11 militaires ont été arrêtés la nuit dernière dans la région de Houla, où des villageois ont dénoncé leur présence. Environ 10 000 personnes font l'objet de poursuites. Plus de 50 000 Turcs ont été limogés, dont 1 400 militaires radiés hier dimanche. À Ankara, le vice-premier ministre Numan Kurtulmus reconnaît que la purge, très critiquée à l'étranger, a pu donner lieu à des erreurs et d'ajouter que les citoyens qui n'ont pas d'affiliation avec les sympathisants de Fethullah Gulen devrait se détendre car il ne leur sera fait aucun mal, mais les autres paieront le prix. Le prédicateur Gulen, exilé aux États-Unis, est accusé par Ankara d'avoir fomenté le coup d'État manqué du 15 juillet, ce que dément vigoureusement M. Gulen. La Turquie a demandé son extradition à Washington, qui exige des preuves. Les relations s'étaient entre les deux pays un peu assombries, mais pour la première fois depuis le putsch manqué, la Turquie, membre de l'OTAN, a reçu la visite du général américain Joseph Dunford, chef d'état-major interarmée.
En Afghanistan, les autorités ont déclaré le district de Kot, dans la province de Nangarhar, libre de toute présence des militants de Daesh. Le gouverneur Salim Khan Kunduzi a affirmé que l'armée a tué près de 300 combattants du groupe État islamique lors d'une offensive ayant duré un mois. Les forces de sécurité vont maintenant s'attaquer à d'autres régions où les islamistes sont encore actifs, a-t-il ajouté. Entre-temps, le ministère afghan de l'Intérieur a annoncé la mort d'un policier dans une attaque des talibans contre un hôtel de Kaboul. Les insurgés ont revendiqué l'attaque, disant que le bilan est très lourd. Aucune information indépendante pour le moment.
Un hélicoptère militaire russe a été abattu aujourd'hui dans le nord-ouest de la Syrie. Bilan 5 morts. Selon le ministère de la Défense à Moscou, l'attaque a eu lieu alors que l'appareil revenait d'une mission humanitaire à Alep. Cet incident intervient au lendemain d'une annonce du gouvernement syrien qui se dit favorable à la reprise des pourparlers de paix à Genève, sans précondition ni influence externe.
Et pour finir, quelques mots sur la présidentielle américaine. La convention nationale du Parti démocrate a permis à Hillary Clinton de reprendre son avance sur Donald Trump dans les sondages. Selon CBS News, Clinton a maintenant 7 points d'avance sur son rival républicain, soit 46% contre 39% des intentions de vote.
Et c'était différent il y a une semaine, exactement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Lors d'un sommet à Malabo ce week-end, les 6 membres de la CEMAC ont décidé d'apporter un soutien supplémentaire de 4 milliards de francs CFA pour le retour à la paix en Centrafrique. Il servira à financer le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Les États membres ont aussi décidé de l'octroi par la Banque centrale d'une avance exceptionnelle de 9 milliards de francs CFA à la Centrafrique. Famane Touré a été élu à la présidence de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Ce nouveau mandat de 6 ans met un terme à 4 années d'intérim de Nicolas Djibo, qui avait pris le relais de Jean-Louis Billon, nommé depuis 2012 ministre du Commerce. Lors du forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu à Beijing du 28 au 31 juillet, le Cameroun a signé de nouveaux accords de financement avec la Chine, notamment pour un projet d'aménagement hydroélectrique dans le nord du Cameroun en vue d'accroître l'offre en électricité et pour la deuxième phase de construction du port en eau profonde de Kribi.
Place à l'actualité sportive et pour ce faire, nous avons en studio la jolie Tatiana Mosso. Salut Tatiana.
Bonsoir Gabi.
Alors, on ouvre avec les Jeux Olympiques.
Effectivement, cette semaine s'ouvrent les Jeux Olympiques au Brésil. Et le nombre de sportifs russes autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Rio à partir de vendredi pourrait être fixé ce lundi ou demain, mardi. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre russe des Sports, Vitaly Mutko, dont le pays fait l'objet d'accusations de dopage de masse. À 4 jours de la cérémonie d'ouverture des JO, les sportifs russes ne savent toujours pas s'ils pourront y participer. La décision finale revient à un panel de trois membres nommés par le comité international, le CIO. Les Russes, déjà écartés des JO par des fédérations internationales, ne pourront être repêchés, mais certains qui ont été retenus pourront être définitivement exclus.
Et il faut dire que M. Mutko avait déjà affirmé que la délégation olympique russe, je crois, se montait pour leur accord. Combien ? Plus de 200 sportifs ?
Exactement, 266 sportifs contre 387 initialement envisagés.
Dans le championnat nord-américain de football, des nouvelles de Didier Drogba ?
Oui, le FC Dallas a conforté sa première place en tête de la conférence ouest du championnat nord-américain, c'était dimanche, tandis que Didier Drogba a été exclu lors du nul de Montréal à Washington 1-1. Dallas s'est imposé 2-0 face à Vancouver et a signé sa 5e victoire en 7 matchs. Didier Drogba, 38 ans, a été exclu pour la première fois depuis son arrivée au club de Montréal en juillet 2015 pour avoir répondu à un tacle rugueux d'un adversaire en lui donnant un coup de genou. 5 minutes après l'exclusion de son buteur ivoirien, 8 buts en 13 matchs, qui sera suspendu le week-end prochain. Montréal a mené 1-0 depuis la 20e minute et a réussi à égaliser.
Parlons maintenant de la Ligue des champions, Tatiana. Quelques résultats des matchs de mercredi.
Monaco s'est incliné 2-1 en Turquie face au Fenerbahçe, qui a gagné grâce à un doublé d'Emine Kœ au troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions le mercredi 27 juillet. À Astana, c'est le Celtic 1-1 qui a été sauvé d'une nouvelle désillusion face à l'Astana de Youri Lovkinenko. Au Pirée, le multiple champion de Grèce, l'Olympiakos, n'a jamais réussi à tromper la défense bien regroupée des Israéliens d'Apoel Beersheva, 0-0, au cours d'un match assez viril, 6 cartons jaunes, il faut dire. Et puis mardi, c'est l'Ajax Amsterdam qui a arraché le nul, 1-1, devant les Grecs du Salonique, après avoir été mené pendant une demi-heure, alors que le Shakhtar Donetsk a déjà fait un pas vers les barrages, l'emportant 2-0. Devant les Young Boys Berne.
Et quand auront lieu les matchs retour?
Les 2 et 3 août.
Quatrième journée de la Coupe des Confédérations.
Alors le FSU Rabat a infligé un score de 3-1 à Marrakech. Le tout puissant Mazembe s'impose lui face au MO Béjaïa 1-0. Al-Ahli Tripoli s'incline 0-1 face à l'Étoile du Sahel. Et enfin le Madéama bat 3-1 les Young Africans.
10 secondes pour parler d'un nouveau deuil pour le football africain.
Et oui, malheureusement, la mort de l'international congolais du football destin Oka Malonga du club de Arles qui est décédé dimanche.
Merci, Tatiana Mosso.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Gaby d'Orsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Niger.
437 millions de dollars. C'est le montant historique obtenu par le Niger dans le cadre du MCC, le Millennium Challenge Corporation du gouvernement américain. La convention a été signée à Washington en présence du Premier ministre Brigitte Raffini. Ce partenariat va notamment permettre d'améliorer les projets d'irrigation au Niger. Nicolas Pinault a recueilli la réaction de Brigitte Raffini.
Nous sommes arrivés ici à Washington pour signer un contrat important, une convention, disons, importante, à savoir le programme que nous avons désormais avec la MCC. Il s'agit effectivement d'un grand projet étalé sur 5 ans, d'un montant d'environ 250 milliards de francs CFA. Nous n'avons pas enregistré un tel montant depuis toute l'histoire de notre pays dans le domaine de la coopération bilatérale. C'est vraiment le lieu de s'en féliciter pour cette grande marque de solidarité vis-à-vis des pays comme le Niger, qui sont des pays non seulement pauvres, mais confrontés à des défis énormes et des contraintes majeures dans leur évolution socio-économique.
Pour le secteur agricole, qu'est-ce que cet argent va apporter?
Pour le secteur agricole, notre problème, ça a toujours été, en tant que pays sahélien, un problème de production, un problème d'aléas climatiques qui ne garantissent pas une production suffisante pour les populations nigériennes. 2 années sur 3, ces derniers temps, sont des années de sécheresse, donc de déficit alimentaire. Avec le MCC, il est question de renforcer du dispositif de production, notamment en mettant l'accent sur l'irrigation.
Que pouvez-vous nous dire concernant la grande offensive coordonnée avec le Nigeria, le Tchad ou encore le Cameroun? On se souvient malheureusement de la vingtaine de soldats nigériens qui sont morts dans l'attaque de Bosso au début du mois.
Oui, c'est vrai que nous avons connu des épisodes assez difficiles avec cette secte maléfique que représente Boko Haram. Mais ça y est, l'offensive est bien partie cette fois-ci avec la force des 4 pays du bassin du lac Tchad. Les forces nigériennes sont déjà sur le territoire du Nigeria pour occuper une des bases importantes de Boko Haram, à savoir Damsak. Et les forces tchadiennes et les autres forces du Nigeria sont déployées sur tout le territoire du bassin du lac Tchad. Et Boko Haram, au moment où je vous parle, a des sérieuses difficultés. Nous pensons que nous sommes en voie d'arriver à la fin de ce malheureux épisode. Les États sont déterminés à mettre fin aux activités de Boko Haram.
Brigitte Raffini dans les studios de VOA Afrique. Une interview à retrouver sur voafrique.com.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Et série VOA Afrique sur les membres des familles présidentielles africaines. Nous commençons par le Sénégal où, comme dans plusieurs autres pays d'Afrique, des proches de chefs d'État occupent des postes de responsabilité. Malgré les critiques de l'opposition, la belle famille, le frère ou encore d'autres membres de sa famille continuent de cheminer aux côtés du président Macky Sall. Pour sa part, la majorité estime qu'il n'y a rien de choquant vu que les personnes concernées sont compétentes et militantes du parti, nous dit de Dakar notre correspondante Sornana Tambay.
Le 23 juin 2011, les Sénégalais se sont farouchement opposés au projet de dévolution monarchique que voulait imposer Abdoulaye Wade, placer son fils Karim Wade à la vice-présidence pour qu'il puisse le remplacer plus tard. Plusieurs années après l'arrivée de Macky Sall, l'histoire semble bégayer. Et ce sont les beaux-frères, les frères et plusieurs proches du président qui occupent des postes de responsabilité. Détié Fall, vice-président du parti de l'opposition Réoumi.
C'est dommage, après cette page tournée qu'on assiste avec le président Macky Sall, qui en son temps était à nos côtés, qu'on assiste avec lui cette forte présence de sa famille dans la gestion des affaires publiques.
Pour Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, cette pratique n'est pas une exclusivité africaine.
Lorsque Kennedy fut président, son frère Bob était l'attorney général, ministre de la Justice, et son autre frère, Ed, était sénateur du Massachusetts. Mitterrand également avec son fils qui était envoyé spécial pour l'Afrique.
Toutefois, un constat est là. Avec le régime de Macky Sall, certains observateurs trouvent indécent le nombre de ses proches à qui l'on a confié la gestion des affaires publiques.
De toute évidence, l'homme a très certainement une faiblesse par rapport aux membres de sa famille. Et je crois que cela peut le desservir. Parce que demain, lorsqu'il ne sera pas au pouvoir, tout ce qu'ils voudront l'atteindre pourront certainement passer par ses proches pour l'atteindre indirectement.
Détié Fall va plus loin, citant le nom d'Aliou Sall, frère du président Sall.
Son frère Germain, de même père et de même mère, était cité dans des scandales. Son frère Aliou Sall a été cité dans l'affaire Petrotim. Mais depuis lors, il n'y a aucune suite, en tout cas judiciaire, qui a été donnée à cela.
Des accusations infondées selon Abdoumbou, membre de l'Alliance pour la République APR, parti au pouvoir et vice-président à l'Assemblée nationale.
Citer quelqu'un dans un dossier ne va pas dire qu'il est coupable. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore quelqu'un qui a saisi la justice pour dire que voilà telle ou telle autre chose. C'est trop simple de citer des gens dans des soi-disant scandales ou autre chose.
En dehors de cela, le député veut insister sur la qualité des postes occupés par les proches du président. Outre Aliou Sall, il évoque le nom de Mansour Faye, beau-frère du chef de l'État.
Mansour Faye, c'est-à-dire le frère de la première dame, c'est pas parce qu'on est frère de la première dame qu'on n'a pas le droit d'occuper des postes de responsabilité dans un pays. Surtout si on est un militant. Aujourd'hui, il a son ministère et toutes les Sénégalaises et les Sénégalais savent qu'il a fait des résultats au niveau de ce département-là.
Pourtant, d'autres noms circulent dans la bouche des membres de l'opposition ou de simples Sénégalais. Abdoulaye Timbo, maire de Pékin, une ville de la banlieue dakaroise, et Abdourahmane Sek Omer, président du conseil départemental de Rufisk et président du conseil d'administration de Petrosen, respectivement cousin du président et beau-père de la première dame. Sornana Tambay Dakar, VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Quelque 77 millions de nouveau-nés dans le monde privés de lait maternel après leur naissance risquent de mourir avant un mois, selon l'UNICEF. Pour marquer la semaine mondiale de l'allaitement maternel, l'UNICEF et l'OMS recommandent le lait maternel exclusif dès les premières heures de la naissance, pendant 6 mois au moins. Nathalie Barge a joint le docteur Ma Touré, médecin généraliste à l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant à Conakry.
C'est un constat qui est général. Il y a pas mal d'enfants qui ne sont pas mis au sein dès après la naissance, bien qu'il y a pas mal d'interventions qui sont mises en place pour éradiquer ce fléau, sachant que la mise au sein précoce en elle seule peut réduire de 13% la mortalité chez ces enfants.
Pourquoi certains enfants, justement, n'ont pas accès au lait maternel après la naissance?
Il y a un manque de sensibilisation de la maman, certifiant que bien qu'il soit dans le milieu du travail, c'est-à-dire que la vie professionnelle peut bel et bien aller avec l'allaitement maternel. Sur le plan de nos cultures aussi, il y a des mamans qui sont confrontées avec l'avis des beaux-parents de la belle-famille qui disent que non, dans notre coutume, après la naissance, un tel enfant doit d'abord bénéficier d'autres liquides que le lait maternel.
Mais ça, ce sont des conseils à ne pas suivre du tout, en fait, c'est cela, hein?
C'est ça, je dis, j'ai commencé par cette manque de sensibilisation. C'est des conseils qu'il ne faut pas du tout suivre pour le bien-être de ces nouveau-nés.
On pensait plutôt que la culture africaine était pro-allaitement maternel.
Au fait, c'est des exemples que j'arrive à avancer qui entravent la première tétée du nouveau-né. Ce n'est pas l'allaitement maternel qui est entravé, mais c'est cette première tétée. La femme, quand elle accouche, il y a d'autres cultures, d'autres familles qui disent, nous, chez nous, il faut lui donner de l'eau, du lait de coco, avant le lait maternel.
Vous expliquez justement que c'est même plutôt dangereux de donner de l'eau à un bébé juste après sa naissance.
Juste ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est des choses que nous sommes confrontés, mais on se bat à éradiquer ce fléau parce que l'allaitement maternel exclusif interdit tout autre liquide des heures qui suivent la naissance jusqu'à 6 mois. Une femme qui n'arrive pas à accoucher dans une structure sanitaire ou qui n'arrive pas à bénéficier d'un accouchement assisté, à la maison, elle est confrontée à ces choses avant qu'il ne soit avec nous.
Est-ce que vous avez affaire également à des cas, par exemple, de mamans qui sont mal nourries et qui ne pourraient pas éventuellement donner leur lait à leurs enfants?
Il reste prouvé qu'une bonne alimentation de la maman pendant la grossesse prépare cette bonne nourriture de l'enfant à la naissance. Il y a des mamans qui ont ces problèmes nutritionnels, mais une fois prise en charge, je pense que le problème est résolu.
Le docteur Matouré, joint à Conakry en Guinée. Présidentielle américaine, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump sont en pleine campagne. Les deux rivaux dans la course à la Maison-Blanche ont eu des échanges assez durs sur la Russie et la place des musulmans aux États-Unis. Idriss Fall.
En effet, Hillary Clinton était hier à Columbus dans l'Ohio, dernière étape d'une tournée de 3 jours dans cet État et en Pennsylvanie. Il a accusé son adversaire républicain d'avoir prêté allégeance absolue à la politique étrangère russe. M. Trump avait demandé que Moscou aide à retrouver les emails disparus du serveur privé de Mme Clinton, mais par la suite, le candidat républicain s'est rétracté, disant que c'était du sarcasme. Bien sûr, les démocrates sont engouffrés dans la brèche pour lui faire procès en règle pour incompétence. Moscou, qui n'était pas en odeur de sainteté à Washington, a été pointé du doigt pour la fuite de 20 000 messages de cadres du Parti démocrate mettant à jour la méfiance et le mépris à l'égard de Bernie Sanders, l'ancien concurrent de Mme Clinton, pour la primaire.
Idriss Fall, il faut dire que la roulette russe a tourné sur la question de la Crimée annexée par Moscou.
Donald Trump a dit, et je cite, « Le peuple de Crimée, d'après ce que j'ai entendu, préfère être avec la Russie. » Jake Sullivan, un conseiller de Mme Clinton pour les affaires étrangères, a immédiatement sauté sur ses propos qualifiés d'effrayants. Trump s'est aussi vanté que le président Vladimir Poutine le traite avec un grand respect, ajoutant que si notre pays s'entendait bien avec la Russie, ce serait une bonne chose, évoquant en particulier la lutte contre le groupe État islamique.
Ainsi, l'islam et la place des musulmans aux États-Unis ont été remis sur le tapis. Qu'en est-il?
Monsieur Trump avait déjà annoncé qu'il voulait interdire les musulmans d'entrer aux États-Unis. Et il en a remis une couche ce week-end. Il s'en est pris au père d'un soldat musulman américain tué en Irak en 2004. Hizr Khan, un Américain originaire du Pakistan, l'avait durement critiqué pendant la Convention démocrate, l'accusant d'avoir une âme satanique et de manquer d'empathie. Madame Clinton a renchéri pour défendre ce père musulman qui, selon elle, a fait le plus grand des sacrifices, ajoutant « Qu'entendons-nous de Donald Trump ? Rien d'autre que des insultes et des commentaires désobligeants sur les musulmans. » Elle a été soutenue par Mitch Mitchell, chef de la majorité républicaine au Sénat, sans nommer Trump, l'a clairement désavoué.
Oui, il faut dire que M. McConnell n'y est pas allé de main morte. Il a dit carrément qu'il n'était pas d'accord. Et toute cette polémique, Idriss Fall, a joué légèrement en faveur de la candidate démocrate.
En effet, Hillary Clinton a profité du traditionnel sursaut post-convention. Elle a désormais 7 points d'avance sur son rival. Selon le tout dernier sondage CBS publié ce lundi, Mme Clinton enregistre un rebond de 4 points alors que M. Trump avait gagné seulement 2 points à l'issue de la convention des républicains qui a été marquée par un mini-scandale de plagiat de son épouse, mais surtout par le camouflet de Ted Cruz qui avait refusé devant des millions de téléspectateurs de le soutenir.
Merci, Idriss Fall.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 31. 40, vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Nous disons merci à Lionel Gaïma qui en a assuré la mise en onde avec l'assistance technique de Joe Gill. Présentation Morgane Guériac et Chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique, votre fenêtre sur l'actualité. Et merci à nos 1,5 million de fans sur Facebook. On maintient la conversation. Partagez vos photos et vidéos. Envoyez-nous vos questions et commentaires. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.